Patrick Poivre d'Arvor sur Radio Classique.
Avec Francis Drezel qui va nous parler de Sibelius, bien sûr, et avec l'espoir d'une vie un peu meilleure. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait appel à des grands optimistes. Commencer par Elodie Fondacci,
c'est
qui
vrai.
Va bon nous soir. Parler de remèdes littéraires.
Exactement, une nouvelle méthode de soins qui s'appelle la bibliothérapie.
Voilà, Nicolas Vanier, bah lui aussi, c'est l'éloge de l'audace à tout point de vue, puisque il est encore reparti et il va repartir, parce qu'il est toujours entre deux grandes courses. En général, avec vous, ça dure assez longtemps ces courses, hein. Et donc après, il faut écrire les livres, faut ce que vous faites donc ouais,
puis,
avec
puis
la
les
grande course,
surtout, ouais.
Et puis faut préparer la suivante. Cette fois-ci donc, c'est aux éditions IXO. Et enfin, Philippe Gabillet, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous aussi, vous êtes un optimiste puisque vous êtes même le président de la Ligue.
Bon, je suis un militant.
Un militant. Bon. Et vous avez écrit un éloge de l'optimisme aux éditions Saint-Simon, qui avait très très bien marché. Et vous récidivez là avec un éloge de l'audace et de la vie romanesque. D'une certaine façon, on peut considérer que Nicolas Vanier est l'incarnation de cet éloge de l'audace.
Ah oui, il est l'une des incarnations des deux, d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, on pourrait même dire que lui, c'est la plus loin, parce que lui, ça pourrait être un éloge du romanesque et de la vie audacieuse, lui, en ce qui le concerne. Mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, par tous les moyens, se confronter à l'extraordinaire.
Et comment nous, on peut être optimiste, audacieux, etc., dans une France qui a été assez durement frappée le 13 novembre, qui est dans cet entre deux tours très incertain et où tout le monde se plaint, tout le monde se fustige. Vous réussissez à garder cet optimisme-là ?
Oui, en ce sens que philosophiquement parlant, d'ailleurs, quand on voit Leibniz d'un côté et Schopenhauer de l'autre, le point commun entre les philosophes du pessimisme et de l'optimisme, c'est qu'ils disent tous « le mal est en ce monde ». C'est-à-dire que le point de départ des deux philosophies, c'est que le mal est là. Simplement, les optimistes disent « on va faire un pari qui est que nous ne consentirons jamais ». C'est-à-dire que Churchill disant aux Anglais « je vous promets du sang, de la boue », De Gaulle disant « on a perdu la bataille mais pas la guerre », ils vous disent « le mal est là mais... » On ne peut pas y consentir de toute façon. Donc, nous devons de toute façon faire confiance in fine à la vie, à la liberté, à la démocratie, à l'intelligence, à l'innovation, à la création, etc. Mais une espèce de pari sur la vie.
Ce que vous nous proposez, vous, dans ce court livre, hein, donc publié aux éditions Saint-Simon, dans cet éloge de l'audace, ce ne sont pas ce ne sont pas des larmes. Hein,
pas du tout. Simplement, j'ai tenté de mettre en évidence, c'est que quand on n'est pas un aventurier, quand on n'est pas confronté en permanence à l'extrême, nous sommes, dans nos sociétés très confortables, sous une menace, qui est la menace du quotidien. Qui est la menace de la normalité,
le confort,
ça peut s'expliquer. Le conformisme, ça devient plus embêtant. La conformité, c'est mortifère au possible. Et la seule façon d'aller contre ça, c'est de se dire, quelle que soit la vie que je mène, et si je me préparais à réaccueillir l'inattendu, alors les rencontres inattendues, les territoires inattendus. Les aventures inattendues, mais moi je me sais que Pascal Bruckner disait à un moment donné, il disait cette vie fondamentalement coupable d'être quotidienne. Eh bien bon, si cette vie est fondamentalement coupable d'être quotidienne, d'abord certains peuvent être heureux dans cette vie quotidienne, mais on peut aussi, au-delà d'un bonheur très conforme, très un peu lénifiant parfois, on peut dire ben et si je réaccueillais dans ma vie de l'inattendu, de l'intensité, voire pourquoi pas de la transgression. Je vais pas pour autant briser tout autour de moi, hein, mais l'idée selon laquelle on a aussi le droit, dans nos vies modernes des années 2015-2016, dans une vie urbaine, on a le droit de se donner le droit de se confronter à l'inattendu.
C'est ce que vous leur dites à vos étudiants, ouais, puisque vous parlez à beaucoup d'étudiants en commerce.
Je dis d'ailleurs, en fait, les étudiants, ou surtout les étudiants aujourd'hui, j'allais presque dire que pour eux, c'est pour beaucoup une sorte d'évidence. Mais vous savez, dans les grandes écoles de management, on travaille aussi avec des dirigeants, des chefs d'entreprise, même des cadres, simplement des managers, qui eux sont des hommes et des femmes qui, en entreprise, sont confrontés pour le coup, dans leur métier, à ce qu'est la norme, le contrôle. Et eux, certains c'est à 30 ans, d'autres à 40, d'autres à 50, disent à un moment donné, c'est pas que je sois malheureux, je suis pas malheureux, je suis sûrement pas aussi heureux que je pourrais l'être.
On a le sentiment qu'ils sont souvent enfermés dans leur carcan, voilà.
L'être humain, cette caractéristique, c'est que, nous avons une cage qui est très particulière, c'est qu'on la porte à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, et cette cage, elle s'appelle le quand dira-t-on, les bonnes manières, Parfois, c'est tout simplement le respect de l'autre, ne pas vouloir faire mal à l'autre, ne pas vouloir vexer la tante Adèle, ma concierge, etc.
Et voilà. Puis la peur de l'échec aussi. Parfois, oui, on n'ose pas parce que sachant on a peur que de l'échec ou du ridicule.
C'est pas tellement la peur de l'échec. Je pense que c'est surtout la peur de la tristesse qui l'accompagnerait. À la fois la tristesse chez celui qui échouerait et la tristesse peut-être chez ceux qui sont autour. Souvent, des gens ne veulent pas échouer parce qu'ils veulent pas décevoir. Celui qui a compris que l'échec c'était une étape, voire un apprentissage, dit bon.
Alors,
in fine, je gagnerai.
Je vous ai apporté justement un spécimen vivant de l'optimisme, de l'audace. Ah oui. Vous avez toujours été comme ça, Nicolas Vanier, ou il y a eu une époque où vous étiez étudiant avec l'espoir de...
Enfant et adolescent, je ne vais pas dire que j'étais dépressif, mais disons que je vivais ma passion comme une maladie, parce qu'elle n'était pas partagée par ceux qui m'entouraient, et puis surtout parce que j'imaginais pas une seconde que les rêves que j'avais en moi d'aller traverser la Sibérie en traînant un chien étaient réalisables, mais pas une seconde. Et donc, je me disais, comment me soigner finalement de cette maladie que mes copains n'ont pas? Et lorsque je suis parti pour la première fois dans le Grand Nord, dans les pays d'en haut, j'ai pris le train Gare du Nord et puis je suis arrivé là-haut. J'espérais être déçu, un petit peu, vous savez, comme une star qu'on voit à la télévision, au cinéma, et puis le jour où on la voit en vrai, elle a des boutons, elle est toute petite, elle est pas sympa. Donc j'espérais ça pour être soigné de cette maladie qui m'envahissait, qui me détruisait, et surtout je voyais pas comment c'était envisageable de mener deux vies, c'est-à-dire une vie où je réaliserais une passion, puis une vie qui était celle que des gens qui m'entouraient. Donc en fait, il y a eu cette partie de ma vie, puis après l'autre partie où je me suis dit je vais essayer. Et même quand je réussissais un tant soit peu, je me disais à chaque fois, j'ai eu un coup de chance, mais j'arriverai pas le prochain coup à repartir parce que j'avais pas trouvé d'argent, parce que j'y connaissais rien.
Et c'était il y a combien de temps?
J'ai mis du temps à avoir confiance en moi et à me rendre compte que j'arrivais à réaliser pas l'impossible, enfin des choses difficiles, quoi.
À quel âge à ce moment-là?
Je dirais que j'ai commencé à avoir confiance en moi à 40 ans, pas avant. À chaque fois, avant que je réalisais quelque chose, que ça marchait, je me disais, c'est un coup de chance, j'ai rencontré un tel qui m'a permis de faire telle chose, mais c'est un coup de chance.
Vous en êtes à combien d'expéditions maintenant? Les grandes, les longues expéditions.
De compter, mais
Bah si, quand même.
Je pense que j'ai fait une quinzaine ou une vingtaine de très grandes expéditions. Je veux parler d'expéditions de plus de 6 mois, 1 an, certaines d'1 an, 1 an et demi.
Donc vous n'avez pas calculé vraiment le nombre de fois où vous étiez en France par rapport à le nombre de fois où vous étiez avec vos chiens.
J'ai passé grande partie de ma vie avec des chiens dans le Nord et avec de la neige, oui, c'est sûr.
Alors c'est ce que vous nous raconterez dans ce dernier livre, qui s'appelle La Grande Course. C'est chez XO, comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est que la grande course?
C'est un petit peu le Vendée Globe des conducteurs de chiens de traîneau.
C'est tout là-haut, c'est la traversée.
C'est tout là-haut, la traversée des montagnes rocheuses du Yukon, la traversée d'une grande partie de l'Alaska, avec beaucoup de relief, une course mythique qui est une sorte de Tour de France là-bas parce que c'est ultra médiatisé.
Combien de kilomètres?
Ce sont aujourd'hui que des professionnels, 1600 kilomètres, beaucoup de cols à franchir, beaucoup de difficultés, de rivières gelées, de taïga, de tout
et tout ça à traîneau.
Et tout ça donc à traîneau, à chien, avec des règles excessivement sérieuses et précises, parce que, comme je vous le disais, c'est aujourd'hui devenu un événement sportif de très très haut niveau.
On n'a pas le droit à plus de chiens que les autres.
Les chiens sont pucés. Oui. C'est extrêmement encadré.
Il y a du dopage
de course. Aucun dopage possible, parce qu'il y a chaque checkpoint des vétérinaires qui contrôlent. Non, tout ça est très 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 contrôlé. Les associations d'ailleurs de défense des animaux sont très puissantes au Canada et aux États-Unis, et donc c'est d'ailleurs assez incroyable, parce que les chiens qui donc sont capables de faire une course comme celle-ci, c'est donc 1600 km en 10 jours, moins 50 de moyenne sur les 4 premiers jours cette année-là. Ce sont des athlètes de très très haut niveau, il y a très très peu d'accidents, alors qu'il y a 14 chiens multipliés par 30, vous voyez le nombre de chiens qui peut y avoir au départ de ces courses. Donc
et qui gagne autour de France, on se demande parfois si c'est le vélo ou si c'est le cycliste, là ce sont les chiens.
C'est vraiment l'équipe, c'est ça qui est extraordinaire, c'est vraiment
l'homme qui fait corps avec ses chiens.
On peut avoir les meilleurs chiens du monde qui vont pas forcément former la meilleure équipe du monde. On l'a vu avec nos joueurs de foot il y a quelques temps déjà. Pareil avec des chiens. Et puis surtout l'association entre les chiens et ce qu'on appelle le musher, c'est le conducteur des chiens de traîneau. La fusion qui peut exister est capitale. Et d'ailleurs, j'étais donc le seul amateur sur cette course et j'étais surtout le seul à avoir sélectionné 14 chiens sur 14, parce que moi j'ai 14 chiens, donc j'ai sélectionné 14 chiens sur 14, alors que mes concurrents ont sélectionné souvent 14 sur 50, 80, 100, voire 150 chiens pour avoir au moment du départ de la course les 14 qui sont les plus en forme, les meilleurs. Et le fait d'avoir l'hiver qui a précédé cette course, par exemple, traversé la Mongolie, la Chine, etc., avec ses 14 chiens, a fait que il y a une fusion entre mes chiens et moi qui a fait un petit peu la différence et qui a fait que sur les trois des derniers jours de la course, j'étais l'attelage le plus rapide.
Et c'est l'amateur qui l'emporte sur les proches, finalement.
Et ce qui a surtout surpris au plus haut point les plus grands mocheurs du monde qui n'imaginaient pas une seule seconde qu'un Français puisse être concurrentiel. Et ça, ça m'a vraiment fait plaisir.
Parce que vous êtes le seul à venir d'Europe, finalement, pratiquement.
C'est impossible, dirons-nous, d'entraîner des chiens en France pour une course de ce niveau-là. Ouais. Impossible pour des questions déjà de température, parce qu'il faut avoir des températures entre moins 10 et moins 30 pour pouvoir faire des entraînements qu'il faut pour une course comme celle-ci. Impossible aussi parce que malheureusement, il n'existe pas les pistes suffisamment longues pour pouvoir le faire. Donc, c'est impossible en France d'entraîner pour une course comme celle-ci.
Ouais. Intéressant, Philippe Gabillet, finalement, cet éloge du collectif, de la préparation.
Et surtout, ce qui est fascinant, c'est de... Quand vous dites que, voilà, vous n'aviez que 14. Donc, de toute façon, il y avait une optimisation nécessaire, voilà, de la réalité. Et cette optimisation, elle passait par la création d'un lien surpuissant, avec ces animaux. Parce que de toute façon, il n'y avait pas d'option. Et là, on a il y a beaucoup de gens qui, dans leur vie en général, si on prenait ça comme une métaphore de la vie, pour, à certains moments, être capable d'aller au bout de soi-même, il faut peut-être ne plus avoir d'option. C'est-à-dire dire, c'est parce que je n'avais plus le choix que c'est enfin ouvert devant moi un choix d'action auquel j'avais peut-être pas pensé. Je me suis permis de transgresser, et là en l'occurrence, c'est formidable, vous avez transgressé l'imaginaire de vos concurrents qui disaient, oh, il peut toujours courir au propre au figuré, et vous avez effectivement couru, et c'est vous qui avez gagné, et ça c'était formidable.
Voilà, ben, écoutez, restez avec nous parce que j'ai encore un remède à vous proposer, ou plutôt c'est Élodie Fondacci qui va vous proposer des remèdes littéraires, justement pour essayer de retrouver un peu d'optimisme. Je rappelle le titre de vos livres, donc L'éloge de l'audace, c'est de Philippe Gabillet, aux éditions Saint-Simon, et La Grande Course aux éditions Ixo, c'est de Nicolas Vanier. Dans quelques instants, Élodie Fondacci et Francis Drezel.
Vous êtes bien sur Radio Classique avec Satie.